Deutsche Welle. L'Afrique en débat.
Dans l'Afrique en débat aujourd'hui, retour sur la crise au Mali. Bamako sollicite enfin l'aide militaire de la CEDEAO pour chasser les islamistes qui occupent le nord du pays. Mais certains Maliens ne veulent pas d'ingérence étrangère dans le règlement de cette crise. Analyse de cette situation avec Luc Ibriga, professeur de droit public à l'Université de Ouagadougou. Professeur Ibriga, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour.
J'espère que vous êtes confortablement installé car nous allons vous mobiliser pour 25 minutes. Et en studio avec moi, Frégis Kenom et Ramata Soré, pas de soucis avec vous. Je sens que vous êtes très à l'aise sur vos sièges. Bonjour.
Bonjour, Georges Ibrahim.
Le 11 septembre, c'est mardi prochain et c'est journée des souvenirs aux États-Unis. Les attentats de 2001, plus de 3000 morts. Ces attentats ont-ils bouleversé les relations internationales? Abelinda Ebinda Ngboko a posé la question à Ruud Brody de Human Rights Watch. Et ce n'est pas tout, il y a le coup de gueule d'Henri Fotso, à qui profitent les ressources naturelles de l'Afrique. Réponse au cours de cette émission. L'Afrique en débat, Georges Ibrahim Tounkara sur le micro, bienvenue, bonjour. C'est un développement important dans la crise qui affecte le Mali depuis des mois. Le président Diokounda Traoré a finalement saisi la CEDEAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, afin qu'elle apporte sa contribution à la libération du Nord Mali sous contrôle des islamistes. Mais cette requête des autorités fait polémique dans le pays. Je vous propose tout d'abord la réaction du porte-parole du RPM, le Rassemblement pour le Mali. On écoute Boubacar Touré.
Nous avions toujours dit pas d'intervention de troupes étrangères, à moins que cela ne soit établi après l'évaluation faite au niveau de l'armée. Si le besoin est d'ordre formation, équipement, alors allons-y pour l'appui de la CEDEAO. Si le besoin est humain, après évaluation, et que tel est l'avis de notre armée nationale, il n'y a pas d'inconvénient.
Autre réaction, celle de Oumar Mariko. Il est le président du SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, un parti politique qui soutient les anciens putschistes maliens.
Que la CEDEAO libère déjà les armes maliennes qui sont en Guinée-Conakry et au Sénégal. Nous allons libérer notre pays. Les gens qui veulent nous soutenir doivent nous écouter. La solution militaire, si elle doit intervenir, elle sera malienne. Et l'armée malienne sera capable de le faire.
Alors, Frégis Kenom, les avis sont partagés sur la demande d'intervention adressée à la CEDEAO. Qu'est-ce que sait-on de cette demande?
On sait très peu de choses de cette demande. On a entendu quelques bribes de ci, de là. On a lu quelques passages seulement dans certaines agences de presse. Et l'intéressé, l'auteur même de la lettre, n'est pas intervenu. En tout cas, jusqu'à vendredi dernier. Donc, on a entendu son émissaire, donc Baba Berthe, de la présidence malienne, qui est allé voir Alassane Ouattara, qui a fait une déclaration à la presse, après relayant un peu le contenu de cette lettre, qui parlerait du danger dans lequel le Mali se trouverait, danger transfrontalier, et qui nécessiterait une réaction transfrontalière. La façon dont la chose est concoctée suscite beaucoup de grincements de dents.
On en parlera. Alors, Ramata Soré, à l'heure où nous enregistrons cette émission, est-ce que vous en savez un peu plus sur le contenu de cette lettre?
Faut dire qu'il y a beaucoup de flou, beaucoup de flou. Je pense que le gouvernement malien ne participe pas à beaucoup plus de sérénité dans la population en gardant le silence. Il y a lieu pour eux de s'exprimer sur ce sujet-là parce que c'est un sujet très important, d'autant plus que depuis bien des mois, les Maliens réclament la libération du Nord.
Alors, professeur Luc Ibriga, vous êtes professeur de droit public à l'Université de Ouagadougou. Vous êtes en ligne avec nous. Il y a du flou encore qui entoure cette lettre que le président malien Diokounda Traoré a adressé au président Ouattara. Pourquoi tout ce flou autour de cette lettre-là?
Mais je pense qu'il n'y a pas de flou.
Mais les autorités maliennes n'ont pas fait de véritable communication là-dessus. C'est un diplomate français qui donne l'information et cela même a choqué de nombreux Maliens.
Non, mais la question des relations entre la CEDEAO et le Mali, je pense que du point de vue de l'exécutif, il n'appartient pas au Mali de révéler le contenu de la demande, il appartient à la CEDEAO d'en parler. Le président malien a fait une demande, et cette demande, il faut qu'il attende d'avoir une réponse de la CEDEAO afin de savoir si sa demande est agréée ou pas. Dire quel est le contenu de la demande, alors que de ce point de vue, sur le plan diplomatique, on n'a pas encore réglé un certain nombre de problèmes. Je pense que c'est porter sur la place publique un certain nombre de questions qui relèvent quand même un peu de la sécurité. On ne peut pas dire sur la place publique ce qu'on demande de faire, alors qu'on veut aller combattre les ennemis qui eux aussi sont en réaction à l'écoute et donc peuvent se préparer en conséquence. Je crois que là, il faut qu'on reste sur l'essentiel et qu'on ne s'arc-boute pas sur des questions de procédure.
Alors, Ramata Souré, pourquoi toutes ces divergences sur l'intervention de la CEDEAO dans cette crise malienne? Il y a certains qui souhaitent une implication plus forte de la CEDEAO. Il y a d'autres qui voudraient simplement, à Bamako, que la CEDEAO ne fournisse que des armes et des moyens de communication.
En fait, je pense que ce débat-là se cantonne aux objectifs personnels ou de groupes de toutes ces personnes ou de ces structures impliquées dans la polémique. Par exemple, l'armée malienne veut utiliser ses propres hommes pour combattre sur le terrain. Alors qu'on sait que, comme le dit le capitaine Sanogo, l'armée malienne manque de matériel et même de personnel formé pour le combat. Depuis le coup d'État du 22 mars, il y a une prime qui a été instituée qui s'appelle prime Amadou Aya Sanogo qui veut inciter les militaires à s'engager pour le combat si toutefois il doit avoir une libération du Nord. Et on a constaté que rien que cette semaine, par exemple, à Markala, dans la région de Ségou, les militaires étaient en train de se battre pour ces primes de 50 000 francs-là qui ne tombaient pas à point. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement le fait seulement d'aller se battre sur le terrain, mais il y a quelque chose d'autre qui les intéresse. Et en plus de ces intérêts-là, il faut dire aussi que la classe politique malienne aussi se déchire parce qu'ils ont d'autres objectifs. Il y a certains qui ne sont pas pressés, par exemple, à aller sur le terrain du combat. Ils veulent, par exemple, l'organisation des élections sans cette partie du Nord. Et selon les informations que j'ai reçues, la lettre a été rédigée en présence de toutes les parties qui devaient être impliquées. Mais pourquoi maintenant cette dissonance ?
La question reste posée. Alors, Frégis Kenom, comment vous expliquez ce nationalisme malien, des Maliens qui ne veulent pas du tout voir des forces militaires combattantes de la CEDEAO sur le territoire malien pour libérer le nord du Mali?
Je ne sais pas s'il faut mettre ça sous le couvert du nationalisme. Nous avons eu dans cette semaine à beaucoup traiter l'information et certains interlocuteurs m'ont indiqué que il y a par exemple la situation en Côte d'Ivoire où l'ONUSI est présente depuis un certain temps. C'est vrai qu'on ne sait pas encore quelle forme va prendre cette intervention. Est-ce que c'est sous la forme de l'ONUSI? Ce n'est pas évident. Sous la forme de l'ECOMOG peut-être ou de la MISOM. Ça, on n'en est pas encore là.
Je crois qu'il a déjà été donné la MISEMA.
La MISEMA, mais ça doit s'aligner sur ce qu'on avait déjà vu. Peut-être l'ECOMOG, on parle beaucoup d'un format ECOMOG. Mais on n'en est pas encore là. Les Maliens ont peut-être peur que cette intervention s'éternise et qu'il y ait du temps avant que les éléments que la CEDEAO enverrait quitte le sol malien, ce qui pourrait générer d'autres problèmes. Donc c'est essentiellement, je crois, là où se situe l'inquiétude de ceux qui estiment qu'il ne faudrait pas que les forces étrangères viennent intervenir au sol. Et c'est particulièrement la préoccupation de l'ex-junte qui estime qu'il faudrait plutôt des renseignements et des moyens logistiques.
Alors professeur Luc Ebriga, vous êtes toujours en ligne avec nous de Ouagadougou. C'est aussi votre avis par rapport à ce que Frégis disait tout à l'heure, les Maliens qui ont peur que les forces de la CEDEAO, des forces de libération, ne deviennent finalement à la longue des forces d'occupation.
Non, je pense que c'est une question de lutte de pouvoir à Bamako qui n'a rien à voir avec la situation dans le Nord. Actuellement, ceux qui rejettent une intervention de la CEDEAO sont ceux-là qui veulent conforter leur pouvoir à Bamako depuis le coup d'État. Et quand on regarde tous ceux qui rejettent toute intervention, ce sont ceux-là qui sont favorables aux putschistes ou les putschistes eux-mêmes qui se disent que l'intervention de la CEDEAO peut conduire à ce qu'ils perdent la face au niveau de cette situation. Quand on regarde depuis le putsch qui a eu lieu, ben, ces personnes qui ont fait le coup d'État, soi-disant pour aller libérer le Nord, jusqu'à présent, ils sont à Bamako et ils font la lutte pour gagner le pouvoir. Et cette question n'est pas une question aujourd'hui, une question du Mali, c'est une question de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, plus on perd le temps, plus les forces transadjines qui sont au nord du Mali sont en train de se renforcer.
Professeur Ibriga, est-ce que le Mali peut réellement se passer aujourd'hui de la CEDEAO au plan militaire, hein, des forces combattantes même de la CEDEAO?
On ne peut pas se passer de la CEDEAO dans la mesure où on a bien vu quand les Touaregs ont attaqué la débandade de l'armée malienne qui a fui et qui a abandonné du matériel aux mains des insurgés. C'est pas cette armée-là qu'on peut reconstruire du jour au lendemain pour aller combattre dans le nord. Et même la CEDEAO elle-même n'est pas à même de conduire toute seule cette opération au Mali. Il faut l'appui des puissances occidentales, de la communauté internationale, pour avoir une couverture aérienne, pour avoir des informations satellitaires et autres. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est à la portée même de la CEDEAO. Donc, disons-nous la vérité, si on veut véritablement libérer le nord du Mali, ce n'est pas avec l'armée malienne qu'on pourra le faire. Il faut une implication de l'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest, parce que le problème aujourd'hui posé est à terme un problème de l'Afrique de l'Ouest.
Alors, Frégis Kenom, un mot sur cette affaire d'armes bloquées dans certains ports de la sous-région, des armes qui auraient été achetées par l'État malien et qui se trouveraient aujourd'hui bloquées dans des ports, notamment de Dakar et de Conakry.
On apprend que c'est le régime de Amadou Toumani Touré qui a été renversé le 22 mars 2012, qui avait commandé cette arme auprès de la Bulgarie et de certains États de l'ex-Union soviétique. Ces armes sont arrivées au moment où le coup d'État avait déjà eu lieu. Donc les pays de la région, notamment la Guinée, parce que les armes sont arrivées au port de Conakry, au port d'Abidjan, apprend-on, au port de Dakar aussi. Les dirigeants des pays concernés auraient saisi la CEDEAO pour demander attitude à tenir, vu que au Mali, il n'y avait pas encore un État démocratique. Donc la CEDEAO aurait donné l'avis qu'il fallait faire main basse sur ces armes et ne pas les transférer au Mali, parce qu'on a peur que ces armes atterrissent dans des mains fragiles. Et c'est le déblocage de cette situation que revendique maintenant l'ex-junte malienne pour aller déloger les rebelles du Nord Mali.
Ramata Sori, on peut comprendre quand même l'attitude de ces pays, de la CEDEAO.
Oui, on peut comprendre l'attitude des pays de la CEDEAO, mais bien avant de continuer sur cet angle-là, j'aimerais ajouter que Cadré Désiré Ouédraogo était en Guinée.
Et le président de la commission de la CEDEAO.
Cadré, voilà.
Oui, donc ça envoie des déblocages. Donc, le gouvernement guinéen a dit que bientôt, les Maliens rentreront en possession des armes après inventaire. Je pense que ça pourrait donner un coup de main aussi à Aya Sanogo, qui réclame à corps et à cri des armes pour combattre. Et maintenant, si le déblocage est fait, on verra qu'est-ce qu'il peut nous prouver en allant sur le terrain.
Dernière question sur ce dossier malien, professeur Luc Ibriga. Il faudra sans doute encore du temps pour voir le nord du Mali libéré.
Bien sûr, parce que ce n'est pas une opération qui va se faire la fleur au fusil, c'est une opération de longue haleine parce que l'ennemi a une maîtrise du terrain. Et donc, voilà pourquoi il faut qu'il y ait véritablement des frappes chirurgicales, il faut qu'il y ait un soutien d'informations et de renseignements satellitaires pour que véritablement les forces intervenir de façon efficace.
Alors, à votre avis, tout cela pourrait prendre combien de temps avant de voir vraiment la guerre contre les islamistes commencer?
Moi, je vois l'éventualité, c'est vers la fin de cette année, le temps que tout se mette en place et qu'il puisse avoir une véritable intervention. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose avant le mois de novembre ou de décembre.
Dernière réaction sur ce dossier, Ramata Sori.
Il faut dire aussi que si l'armée marine se prépare, il faut dire aussi que les rebelles se préparent. Il y a le chef d'état-major du Mujao qui a dit que s'ils veulent marcher sur Bamako en 24 heures, ils vont le faire. Et même que s'ils veulent prendre leur café à Koulouba, qui est la présidence, ils peuvent le faire.
Bah, ça peut être du bluff aussi, hein.
Je pense pas que ça doit être du bluff.
Voilà, juste insister, vous faites bien d'insister un peu sur Jean-Félix Paganon, qui a été celui qui a beaucoup parlé dans cette affaire d'intervention ces temps-ci. Il y a quelques jours, l'émissaire burkinabé Djibril Bassolé est allé en France, aurait proposé à la France de laisser intervenir le Qatar comme médiateur dans ce conflit. Et la France n'en veut pas. Voilà, du coup, on voit Jean-Félix Paganon entreprendre une tournée dans la sous-région. Il était en Mauritanie aussi.
En Mauritanie ou au Niger?
Au Niger. D'où la question, comment est-ce que cette fameuse lettre a pu être pondue et adressée
Alors, on verra un peu plus clair dans tout cela dans les jours à venir. Vous êtes sur la Deutsche Welle, la radio internationale allemande, et c'est l'Afrique en débat que vous suivez. Au menu aujourd'hui, la crise malienne. Après après la demande d'intervention adressée à la CEDEAO par le président Diokounda Traoré, une demande qui fait polémique à Bamako. On marque à présent une petite pause en musique et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. En plus des islamistes, le Mali doit aussi lutter contre l'excision. Sékouba Diabaté.
Excision, c'est pas bon. Mutilation, c'est pas bon. Atakura na konate di kitaburo. Tina luki ni soni made nya fala de nami.
L'Afrique en débat, toujours en ligne avec nous, le professeur Luc Ebriga de l'Université de Ouagadougou et en studio avec moi Frégis Kenom et Ramata Soré de la rédaction francophone de la Deutsche Welle. La suite de cette émission avec les attentats du 11 septembre 2001, plus de 3000 morts dans une série d'attaques terroristes qui ont visé le sol américain. Et ce mardi, les États-Unis vont commémorer le 11e anniversaire de cette page sombre de leur histoire. Ces attaques terroristes ont-elles changé quelque chose dans les relations internationales? Abelinda Ebinda Ngboko a posé la question à Ruud Brody, chercheur à Human Rights Watch.
Mais c'est une évidence, c'est surtout la réaction aux attentats d'11 septembre et la surréaction qui a fait crisper les relations entre les États-Unis et plus globalement l'Occident d'un côté et le monde musulman d'un autre. La guerre contre la terreur de l'administration Bush, les mauvais traitements contre des prisonniers musulmans a fait en sorte qu'un clivage s'est approfondi entre ces deux mondes.
Vous aviez publié un ouvrage très remarquable. Faut-il juger George Bush? Pourquoi cette question?
Bon, parce que sous l'administration Bush et avec son approbation, les États-Unis ont systématiquement maltraité, même torturé des prisonniers. Ce sont des crimes de guerre, des actes de torture. Et en plus, le fait que tous ces actes ont été perpétrés contre des prisonniers musulmans n'échappe à personne. En fait, ces pratiques qui ont été en quelque sorte vendues pour rendre les États-Unis plus sûrs contre le terrorisme ont exacerbé les tensions et ont rendu les États-Unis plus vulnérables.
Et le président Barack Obama, au début de son mandat, il avait juré de tout faire pour fermer, par exemple, la prison de Guantanamo. Mais la prison de Guantanamo est toujours là et abrite ce qu'on appelle des terroristes.
C'est une des déceptions de ce mandat. Le président Obama n'a jamais voulu mettre le capital politique nécessaire pour fermer Guantanamo, qui reste malheureusement un symbole pour le monde des dérives des États-Unis.
Est-ce que ce drame du 11 septembre aux États-Unis a eu quelques répercussions pour le continent africain et les Africains?
Je travaille beaucoup en Afrique, je passe beaucoup de temps avec des Africains. Je ne vois personne dont la préoccupation principale est le terrorisme international. On parle beaucoup plus de l'emploi, de la sécurité alimentaire, de l'éducation. Je pense qu'on a tellement misé sur la lutte contre le terrorisme, on n'a pas attaqué les vrais problèmes ni de l'Afrique ni du monde.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Maître Ruud Brody, qu'aujourd'hui on utilise un peu abusivement le terme de terroriste, terrorisme?
Le terrorisme a remplacé le communisme comme l'attrape-tout, comme ce qu'on désigne les opposants. Évidemment, il faut que, et d'ailleurs c'est la première responsabilité d'un État, c'est de protéger ses citoyens. Mais Human Rights Watch a recensé dans le monde plus de 120 pays, et pas seulement évidemment en Afrique, mais partout, qui ont abondé dans un sens abusif dans les lois contre le terrorisme en adoptant des lois vagues, en permettant des preuves qui normalement ne sont pas permises, en violant la vie privée des citoyens, etc.
Le chercheur Ruud Brody de Human Rights Watch qui répondait donc aux questions d'Abelinda Ebinda Ngboko. Professeur Luc Ibriga, une réaction à tout ce que vous venez d'entendre là, les conséquences des attentats du 11 septembre 2001 sur les relations internationales?
Oui, les attentats du 11 septembre ont eu à projeter au devant de la scène une approche confessionnelle des relations internationales avec une vision binaire des choses. Il y a d'un côté ce qui est bien et de l'autre ce qui est mal. C'est que l'administration Bush avait traduit par l'axe du mal. Tous ceux qui se trouvent dans l'axe du mal, on peut les attaquer, on peut utiliser tous les moyens pour les confondre et les détruire. Il y a eu une surestimation de la menace terroriste à des fins de politique intérieure des États-Unis. Et cela a contaminé l'Occident. Jusque dans les accords de Cotonou, où la révision de ces accords a conduit à introduire des préoccupations qui ne sont pas des préoccupations des Africains, des préoccupations concernant le terrorisme, etc.
L'Al-Qaïda a rendu un grand service aux Américains parce que les dirigeants ont pu découvrir un ennemi qui leur permet de faire beaucoup de choses.
De justifier tout ce qu'ils font.
De justifier beaucoup de choses à l'interne comme à l'externe. Et pour ce qui concerne nos auditeurs sur le volet externe, c'est le renforcement toujours prononcé de la présence américaine, présence militaire sur le territoire africain. L'Afrique est maintenant embarquée dans cette affaire de terrorisme et de lutte contre le terrorisme. Depuis les attentats de Nairobi et de Dar es Salaam, les signaux avaient déjà été lancés et il y a de plus en plus de groupes de djihadistes sur le continent africain puisqu'il y a un sous-développement ambiant, il y a une pauvreté ambiante qui sert de terreau naturellement pour les entrepreneurs de la violence sous le vocable de terroriste.
Ramata Soré?
Oui, moi j'aimerais réagir sur un point bien particulier de cette interview. Là, faut-il juger Bush? Je pense que ça va être bien si on arrive à juger Bush, même si les États-Unis n'ont pas signé
et
la convention.
Et qui va juger Bush?
La CPI, comme les autres aussi, passe devant la CPI, même s'ils n'ont pas signé la convention de Rome. D'ailleurs, ça me rappelle qu'une ONG avait demandé, lorsque Bush était en visite en Afrique de l'Est, qu'il soit arrêté et jugé. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait.
Et on retrouve maintenant Henri Fautso pour son coup de gueule. À qui profitent les ressources naturelles du continent? Assurément pas aux populations africaines, nous dit-il.
À l'école primaire, on nous parlait de certains pays africains comme étant des scandales géologiques, disposant de perspectives économiques reluisantes, éblouissantes. L'ex-Zaïre avait le diamant et le cobalt. Le Nigeria et l'Angola avec le pétrole, le Niger avec l'uranium ou encore la Guinée avec la bauxite. Fort de tous ces atouts, les dirigeants africains faisaient répéter des slogans du genre « La santé pour tous d'ici l'an 2000 »,« L'école pour tous d'ici l'an 2000 ». C'était au siècle passé, oui, au siècle passé. Mais aujourd'hui, 12 ans après le début du 21e siècle, où en est-on avec ces slogans qui ont fait rêver plus d'un Africain? Des progrès ont été réalisés, certes, mais il reste beaucoup à faire. À qui profitent donc toutes ces ressources naturelles dont on ne cessait de nous parler? En tout cas, pas aux populations des zones minières de Guinée ni de l'est de la RDC. Encore moins du Niger. L'uranium du Niger continue en effet d'être exploité dans des régions sans électricité, alors que cet uranium sert à produire de l'électricité dans des centrales nucléaires dans le monde. Les populations du Nigeria sont toujours plus pauvres. Idem pour les producteurs ivoiriens qui vivent dans le dénuement total. N'est-il pas donc temps que le sous-sol africain profite en premier lieu aux populations africaines, propriétaires de ces richesses naturelles? Question utopiste, dirait d'aucuns. Mais l'Afrique se doit de vite avancer dans la voie de l'industrialisation, avec des dirigeants surtout soucieux du bien-être des populations, et non de celui des multinationales.
Voilà le coup de gueule d'Henri Fautso sur l'exploitation des ressources naturelles du continent. Coup d'œil à présent sur quelques événements à venir. Ce lundi 10 septembre, peut-être l'élection du nouveau président somalien par le Parlement. Le mardi 11, la commémoration aux États-Unis du 11e anniversaire des attentats de New York. Nous vous en parlions il y a un instant. Le jeudi 13, la justice ghanéenne examinera de nouveau la demande d'extradition formulée par les autorités ivoiriennes à l'encontre de Justin Katina, porte-parole de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le vendredi 14, le pape Benoît XVI entame une visite de 3 jours au Liban. Voilà, c'est tout pour l'Afrique en débat d'aujourd'hui. Grand merci à vous, professeur Luc Ebriga, professeur du droit public à l'Université de Ouagadougou, d'avoir donc été en ligne avec nous pour notre débat consacré à la situation au Mali. Merci également à vous, Frégis Kenom et Ramata Soré, d'avoir été là avec moi en studio. Et pour réagir à ce numéro de l'Afrique en débat, une adresse français@dw.de ou par SMS au 0049 176 64 12 12 63. L'Afrique en débat, c'est tous les dimanches à 12h05 temps universel. À dimanche prochain.